C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, c'est vendredi, donc rapport des commissaires, c'est Nathalie qui commence.
Avoir la faim au ventre, cette histoire publiée, rendue publique par Radio-Canada m'a fait beaucoup réagir. Ruée et bousculade pour obtenir de l'aide alimentaire, ça s'est passé dans Parc Extension. Vous avez certainement vu les images, toutes ces personnes, beaucoup de demandeurs d'asile dans la file qui se sont battus, littéralement, pour obtenir de quoi manger. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut accepter de vivre dans une société qui tolère des gens qui se battent, qui se chicanent pour avoir accès à de la nourriture? Moi, je réponds non. La réponse me semble assez évidente. D'autant qu'on compose avec une itinérance qui est en augmentation, trop d'enfants encore dans nos écoles qui arrivent dans leur classe le ventre vide. Alors, bravo à Cuisine et Vie collective Saint-Roch, c'est l'organisme communautaire qui vient en aide à tous ces gens. Et je me dis, mon Dieu, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire un effort de solidarité, là, qu'on prenne tous conscience individuellement là, de la situation, puis qu'on se dise, bon, moi, je fais quoi en fin de semaine?
Ouais,
je fais un don de 10 $, je fais un don de 15 $, de 20 $. T'appelles de temps à autre, toi aussi, Luc, à se mobiliser, puis dire, on fait quoi, là? Des banques alimentaires, il y en a dans toutes les régions. Fait qu'on peut faire, nous, comme citoyens.
Travaille bien.
Tu dis, Luc, ils font une grande différence. Fait que nous aussi, on peut faire une grande différence. Alors, moi, je n'en revenais pas. Puis, pour se promener au centre-ville de Montréal, là, il y en a de plus en plus, là, des visages de migrants, là, qui nous demandent de l'argent, là. Il y en a, on les reconnaît, là, on les voit, là. C'est pas des citoyens, là, qui sont habitués à quémander puis à mendier dans les rues. Geneviève s'en va en guerre, les amis. Le gouvernement de la CAQ rêve aux agences. Ben oui, elle s'en va en guerre. Elle a fourbi ses armes pour nous convaincre du bien fondé de créer une agence pour le ministère des Transports, une nouvelle agence. Et je me dis, mon Dieu, ça y est, il me semble que notre cour est pleine. L'agence en santé n'a pas encore fait ses preuves. Elle n'est pas encore officiellement constituée. Que là, on ajoute une couche en nous faisant croire qu'une agence dans le secteur des transports va nous permettre de régler tous nos problèmes. Et je consultais là, ce projet. Toi, dans les deux grands objectifs, on souhaite construire de 20 à 25 % plus rapidement. Puis on souhaite baisser la facture des projets de 15 à 20 %. On a-tu vraiment besoin d'une agence pour arriver à atteindre ces deux grands objectifs? On a juste à mettre fin à la règle du plus bas soumissionnaire, puis il me semble que là, on ferait déjà du ménage. Et l'autre chose, je me suis dit, ça, c'est une claque en plein visage pour la Société québécoise des infrastructures. Parce que vous savez qu'il existe une grande société et qui est le ministre responsable? Jonathan Julien. Ça, c'est notre ministre responsable des infrastructures. Lui, de toute évidence, il est en train de s'en faire passer une petite vite, là.
Mais quand je parlais avec la représentante des maisons d'hébergement tantôt.
Oui.
Ce qui est extraordinaire, là. Tu sais, quand tu dis te compliquer la vie, tu veux bâtir des maisons pour femmes battues. OK. C'est pas un logement social. C'est une maison d'hébergement. C'est pas pareil. L'espace commun, bon. Et là, le top, c'est ça prend une entrée de sécheuse puis de laveuse dans chacune des unités d'habitation. Puis là, tu le dis, on n'en a pas besoin. On va faire une belle buanderie. Faites-les pareil, vous boucherez le trou.
Ben voyons donc.
Je te jure, parce que ça peut, si on change la vocation. Fait qu'eux, ils sont partis de l'idée que c'est un logement locatif. Tu dis, ben non, faut qu'il y ait un système de sécurité particulier, faut que...
L'erreur dans ce dossier-là, Paul, c'est que, puis c'est la première fois que ça arrive, je crois, c'est que ça relève de la SHQ. Moi, j'ai jamais vu ça, que la SHQ soit responsable.
De ça? De ces maisons-là?
Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Ben, à ce moment-là, pourquoi les maisons des aînés relèvent pas? Si on suit la logique du gouvernement, pourquoi les maisons des aînés relèvent pas de la Société d'habitation du Québec?
Je sais pas.
L'erreur, à la base, c'est que ce dossier-là relève de la SHQ. C'est pas compliqué à régler le problème. Retirer de la SHQ le mandat de s'occuper des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, puis envoyer ça dans la cour de Martine Biron, qui est responsable de ce dossier-là, puis construisez ça comme on construit une maison des aînés ou autre chose. Là. Et lors de ça, écoute, lors de ce compliqué les affaires.
Normes, moi, je connais trois dossiers dans lesquels ça pose énormément de problèmes, les normes de la SHQ ou autres. Mais on parle de maisons des aînés, les maisons des femmes battues, le logement social. Je me rappelle un petit terrain qu'on avait, puis on voulait mettre du logement social. Il arrive les plans, il y a des logements sociaux là-dedans qui ont 5 chambres. On est sur le plateau Mont-Royal. Voyons, 5 chambres, c'est le plateau Mont-Royal. C'est en train de construire quoi? Ben oui, il y a des familles de 4 enfants, puis ça prend une chambre par enfant. C'est réglementaire, t'as pas le droit d'en mettre moins. Résultat, ça réduisait énormément le nombre de logements qu'il y avait disponibles. Mais on peut-tu, parce qu'on est sur le plateau, prendre la moyenne du nombre de chambres sur le plateau? La moyenne des familles sur le plateau, c'est 3 chambres. On peut-tu? Non. on peut boire.
Mais tu dis, il est où le jugement? les amis? Enfin, moi, j'espérais un peu de bromance à Ottawa aujourd'hui, mais de toute évidence, il y aura probablement beaucoup de sourires devant les Kodak, mais beaucoup de tensions derrière les portes closes. Je réfère bien sûr à la rencontre au sommet entre nos deux premiers ministres. J'écoutais ton échange avec Jonathan Trudeau ce matin. Jonathan qui dit, ben là, il n'y aura pas d'annonce du côté d'Ottawa aujourd'hui. Mais ce qui me fascine dans ce dossier-là, c'est deux choses. La première, la CAQ, gouvernement fortement majoritaire, est incapable de créer un rapport de force qui l'avantage face à un gouvernement minoritaire à Ottawa. Ça, c'est un. Deuxièmement, à quoi un an de la prochaine élection fédérale, comment se fait-il que Justin Trudeau soit aussi fermé aux demandes du Québec alors que...
Il dépend.
Ben oui, exactement, c'est ça. Il dépend du Québec. Alors, c'est sûr que, et puis Jonathan le disait à juste titre, l'invitation de M. Legault invité à voter conservateur à la dernière élection, ils l'ont encore de travers dans la gorge à Ottawa. Mais tout de même, sur le plan purement politique, là, il y a des choses, honnêtement, qui m'échappent.
Mais tu sais qu'en santé, moi, je me souviens quand M. Harper était au pouvoir et que M. Harper avait envoyé 2 milliards au Québec pour le financement des soins de santé et M. Charest avait baissé les impôts. Peux-tu dire que M. Harper, il l'a eu sur le cœur assez longtemps?
Oui.
Avant qu'il retourne un chèque au Québec, là, en disant, hey, c'est supposé être pour les hôpitaux, puis toi, tu baisses les impôts.
Ouais.
C'était pas une bonne affaire.
Mais c'est intéressant, si tu compares les conservateurs de M. Harper et les libéraux de M. Trudeau, les libéraux de M. Trudeau sont beaucoup plus centralisateurs que M. Harper, qu'on a démonisé.
Ben oui.
Qu'on a démonisé.
Mais moi, je trouve que ça, c'est la rencontre de Pépinotte et de Pantalone, parce que. Non, parce que là...
Précision, le précise ta pensée.
Parce que on aurait entendu Legault déclarer « Je vais avoir les droits en immigration. Hey, » Ça sera le meilleur tour de toute mon existence. Parce que il n'y croit pas. Il n'y croit pas, voyons donc.
Il veut les pleins pouvoirs en immigration.
Ben voyons donc voir qu'ils auraient... Il s'en va là-bas, lui, c'est un show de boucan. Il s'en va faire un positionnement contre un Parti québécois. Voyons donc, il n'aura pas les pleins pouvoirs. D'abord...
Mais il n'y a pas le choix de les demander.
Oui, ce sont deux farceurs. Là. Lui, là, Legault, là, farceur 4+. Là. C'est lui qui a catapulté le nombre de nouveaux résidents québécois. Trudeau, c'est celui qui a catapulté le nombre de résidents canadiens depuis des années. 5 fois plus que le reste des pays de l'OCDE, 5 fois la France, les États-Unis, etc. Et Legault le fait, Trudeau le fait pendant des années sur la base d'une vision totalement idéologique qui consistait à dire c'est la générosité canadienne, pas pantoute, c'est la grosse business. Tu fais rentrer du monde dans des villes, Vancouver, à Toronto, qui doivent toutes s'acheter une laveuse, une sécheuse, un jour s'achèteront une voiture, une maison, etc. C'est des milliards de dollars d'investissement. C'était un mode de développement économique. J'ai tout le temps prétendu que la différence entre Ontario et Québec s'expliquait plus par l'immigration que par l'automobile. Et là, ça a fait quoi? Ça a frappé les petits salariés partout au Canada, dans les grandes villes, et surtout à Vancouver, à Toronto, plus moyen d'habiter là. Nous autres, on reprend le même modèle à Montréal, au Québec, avec les immigrants temporaires. Puis le goût de dire, ben oui, mais les demandeurs d'asile ne devraient pas avoir le droit à la garderie.
Non, pour penses-tu, ceux, penses-tu, pour, là, il faut nuancer ceux qui ont permis de travail. C'est ça l'enjeu,
oui,
en fait. Mais tous les autres,
mais,
non, c'est
mais,
ça.
Mais d'aller dans ces détails-là, de dire, mais j'ai un problème avec les demandeurs d'asile, j'ai un problème avec les services en garderie, à la place de voir la photo globale qui est, on a 500 000 temporaires au Québec par année de plus qu'on en avait avant, la photo globale, c'est ça.
Mais bon, on pourrait s'obstiner encore longtemps là-dessus, mais...
Continuez, Madame la commissaire,
oui, mais
une question quiz
pour vous. Ben, c'est sympathique, là, je voulais terminer la semaine en beauté. Vous êtes allé à Rome peut-être un jour dans votre vie.
Oui.
Vous avez peut-être jeté une pièce de monnaie dans la célèbre fontaine de Trévi. Alors, quelle est la valeur des pièces de monnaie en 2022 qui ont été jetées dans la fontaine de Trévi?
Il y en a pas mal.
Il y en a pas mal, oui. C'est déjà un début de réponse, Paul. Il y en a pas mal.
Je n'ai pas compté.
Combien?
Je n'étais pas avec Pierre-Yves. Si j'avais été avec Pierre-Yves, Pierre-Yves aurait compté.
Écoutez, en 2022, roulement de tambour, les amis, 1,4 million d'euros ou 2 millions de dollars canadiens, c'est la valeur des pièces en question. Et l'argent utilisé par un organisme qui s'appelle Caritas, un organisme catholique qui, bon, finance des cuisines collectives, des banques alimentaires. Il y a une épicerie fort intéressante à Rome qui s'appelle Emporium qui permet à des gens très démunis d'aller là-bas faire leur épicerie à très, très bas coût. Et je lisais, c'est CBC qui écrivait ça cette semaine, et je lisais que dans cette fameuse fontaine, on ne jette pas seulement des pièces. On y retrouve toutes sortes de choses. Des dentiers, des bijoux, des cordons ombilicaux.
Oh ben tabarouette.
Les gens qui se disent, écoute, c'est une fontaine qui porte chance. Sacré. Alors, oui, voilà.
Mais avec le chiffre que tu viens de révéler, ça sera pas long qu'on va voir des gars déguisés en lion qui crachent de l'eau avec les mains tendues pour essayer de... dans la fontaine de Trévi.
Au retour, c'est le rapport de Luc.
La commission Normando-Ferrandaise.
Monsieur le commissaire, c'est à vous.
Bon. L'aide arrivera-t-elle par la mer à Gaza? Hey, ça, on est-tu pathétique? Est-ce qu'on est pathétique? Même moi, je suis pathétique, puis je m'en suis rendu compte, parce que j'ai parlé à un expert. Il dit, voyons donc. Hier, il y a 22 personnes qui sont décédées, ils ont été tirées par l'armée dans une file d'attente pour avoir de la nourriture. Il y a 10 jours, il y en a eu plus de 100 qui ont été... Pensez-vous que les bateaux vont arriver, que les Israéliens vont dire, oui, débarquez ce que vous voulez, aucun problème. Non, non, les bateaux vont arriver, les Israéliens vont faire la sécurité, les Palestiniens vont se précipiter comme des affamés, les bras dans les airs.
Parce qu'ils sont affamés, voilà. Oui.
Et on les a vus hier par drone. Là, il y avait quelques sacs de farine qui avaient été échappés. Ils se sont précipités par centaines pour essayer de les attraper. Alors, ce qui va se passer, c'est encore la même maudite affaire. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une foire épouvantable. Il va y avoir de la violence parce qu'Israël est déterminé à ne pas laisser rentrer l'aide. Et c'est pas parce que... Puis nous autres, on a le bateau est rendu où, là? Le bateau est rendu...
Oui, comme... mais aux nouvelles, c'est ça, il s'en vient, il est là. Deux tonnes de marchandises.
Là, les hélicoptères poursuivent le bateau. Toi, comme les hélicoptères poursuivent la voiture de Trump qui s'en va au tribunal. Oups, il est
comme
rendu à tel point de vue.
L'hélicoptère TVA, là.
Oui, c'est ça. Mais c'est cette... On est pathétique parce qu'on s'accroche à des images puis des espèces de petits bouts de solutions. Puis, anyway, le bateau, là, il va amener 200 tonnes de nourriture. Là. C'est 130 000 ou peut-être 300 000, pardon. 300 000 plats pour une population de près de 2 millions affamés.
Mais Luc, ce qu'on espère, c'est que ce barrage qui est autorisé par les Américains, puis ça, le message est très, très fort, c'est un bateau, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait d'autres après. Tu comprends?
Oui,
c'est
oui.
qu'on développe un corridor permanent d'aide humanitaire.
Ben, les Américains vont construire un quai. Mais l'affaire, c'est que le spécialiste qui m'a expliqué, Claude Bruderlin, c'est que entre ce qu'est la population, les Iraniens vont capter la nourriture puis la redistribuer. Ils laisseront pas juste prendre les bateaux arrivés de partout dans le monde puis de déverser leur nourriture là. Il va donc y avoir la même problématique que dans les goulots d'étranglement terrestre où l'aide n'arrive pas.
En souhaitant que ce que tu décris n'arrive pas, c'est-à-dire
on va le voir.
Oui,
on va le voir.
Tout
en tout cas.
Fait.
Moi, je pense que Bruderlin a raison. La solution new-yorkaise pour les migrants, avez-vous vu ça? Parce que tu parlais de parc extension. Fait que eux autres, ils ont fait à New York, ils en ont reçu, c'est 220 000 depuis 2 ans. Puis ce qu'ils ont fait, il y a plus de 200 édifices municipaux qui ont été utilisés à cette fin, des gymnases, des églises, des centres communautaires, plus de 200. Et malgré tout, ils n'y arrivent pas. Alors, ils ont construit dans un champ à une heure de route de New York d'immenses installations, comme des installations de guerre, là, avec des tentes, puis des tentes avec
genre de camps de réfugiés.
Ouais,
là,
des camps de réfugiés, puis des autobus qui font la navette pour amener les enfants à l'école, etc. Alors, on est dans une situation particulière. Hein? On est dans une situation où... Puis les gens se plaignent pas trop. Ils se plaignent, mais ils se plaignent pas. Tu sais, ben, regarde, on est à une heure de New York à pied. On peut pas y aller, évidemment, en autobus. C'est très difficile. Il y a pas... C'est situé nulle part, là. Ils dépendent de l'autobus, la navette, là, mais ils dorment dans des tentes, ils prennent leur douche dans des tentes, des enfants, tout le monde, et c'est là qu'ils en sont. Est-ce que c'est ce qu'on devrait faire aussi, un espèce de grand camp, un immense camp?
Moi, je pense pas que publiquement, je pense pas que les Québécois acceptent ça, mais on pourrait s'inspirer certainement de l'expérience de New York. Est-ce qu'il y a des espaces qui permettraient ça à Montréal, là, qui ne sont pas occupés? Parce que, en fait, au Québec, je trouve ce qui est différent peut-être de New York, c'est qu'on ne prend pas encore conscience de l'urgence. C'est-à-dire que le gouvernement, oui, il le dit, mais dans les faits, quels gestes il pose pour que ça fasse une différence sur le terrain? Tu comprends entre le discours et la réalité? Ils ont débloqué 40 millions de dollars pour les banques alimentaires pour les 2 prochaines années. Mais entre nous, c'est insuffisant, là. Ça prend beaucoup plus que ça. Enfin.
Dernière affaire, une autre affaire à New York. Donc, la garde nationale dans le métro. Avez-vous vu ça? Mm-hmm. Les gars avec... puis, tu sais, c'est les soldats américains. Hein. Les soldats américains, tu les prends de la rue, tu les mets dans le film, puis ça marche. Les autres, c'est les mêmes, là. Tu sais, c'est des caricatures. Oui, le fusil mitrailleur pointant vers le bas, attaché à l'épaule, les lunettes fumées. Oh, c'est ça. Puis, il y en a d'ailleurs, il y en a d'autres types d'éléments de la garde nationale, de la police, en fait, avec des espèces de casques, de chapeaux, pas de shérif, mais pas de cowboy, mais qui tiennent droit sur leur crâne rasé, tu sais. Puis eux aussi.
Tu vas te demander comment le chapeau fait pour tenir sur la tête.
Ce sont des comédiens. Je veux dire, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin dans le métro de New York? Problèmes de santé mentale, oui, il y a eu de la violence par des gens qui avaient des problèmes de santé mentale en grande partie, pas toujours, mais presque toujours. Ce qu'on a besoin, c'est de s'occuper de ça. Ce qu'on a besoin, c'est des gens capables de s'occuper des problèmes de santé mentale avec une force policière capable de les immobiliser lorsqu'ils sont en crise, etc., puis de les référer. Ben, le gars qui sort directement d'un film de Marvel avec son fusil automatique, il va servir Ardien.
T'es aux États-Unis,
ben
tu
oui.
Le dis.
Ben oui.
Mais juste l'image envoie un message de dissuasion.
Oui, et les New Yorkais sont contents. La plupart des gens disent, on a besoin de ça. Et moi, ça
c'est parce que les gens, c'est vrai, les problèmes de santé mentale, mais les gens ont la mèche courte. Tu sais, il y a quelqu'un qui t'aime pas en face, mais il sort un couteau. T'sais, c'est pas juste. Moi, je suis allé l'an passé, puis c'était un dimanche matin, bien tranquille. Puis tu sais, tu sors du métro, puis là, tu dis, t'en vas bruncher. Il est comme 11 heures. Puis comme j'ai un paquet d'alertes qui sonne, j'ai un petit peu branché, là, ça, on m'explique qu'il y a un gars qui vient tirer dans le métro. Bon, tu dis OK, où ça? Même à part c'est la station qu'on
où
vient.
Tu t'en vas?
Ben, à côté.
OK.
C'est une station où, puis il y a un monsieur qui est rentré, qui a tiré sur du monde. Puis je pense qu'à mon souvenir, il y avait au moins une personne de décédée. Pourquoi? T'sais?
Mais c'est ce qui a fait que la Garde nationale a finalement
ben oui,
été
ben,
appelée. Mais la Garde nationale,
non, mais
excuse-moi.
Quand tu prends le métro à New York, là, tu te mets pas sur le bord.
Éduqué. Ah ouais, ouais, tout dans le fond.
Ben non, ah. Tu sais, moi je voyais des gens là, ils étaient comme penchés, ils attendaient, regardaient voir si le métro. Tu sais, un fou passe, il te pousse. Puis ça, il y en a eu des cas là, quelques-uns là. Tu te restes à l'écart un peu parce que c'est pas la meilleure idée de te.
Mais vous trouvez que c'est une bonne idée prendre le métro quand vous allez à New York?
Oui.
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 Ah
oui.
Oui, c'est pas aussi, ben c'est un événement par million de passages. Donc c'est beaucoup plus qu'à Montréal, un événement par 5 6 7 millions de passages, même je pense que c'est moins encore dans le métro. Mais néanmoins, c'est quand même sécuritaire.
On s'arrête là-dessus. Bon week-end à tous les deux.
C'est 23.